Bonsoir, Cyril.
Décorticage.
François, si tu nous entends, on est là, on est là, François, si tu nous entends.
Je vous entends.
Encore un beau jingle pour ton décortiquage. Ce soir, tu nous parles de méritocratie, je crois.
Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas beau. Bon, je m'aperçois que c'est un peu sérieux ce que je vais dire. C'est pas grave. Donc,
Oula.
Donc, l'aristocratie, c'est étymologiquement le pouvoir des meilleurs. L'oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns. La monarchie, le pouvoir d'un seul. La plutocratie, le pouvoir de l'argent. Et... Tu vas me faire la relance.
La méritocratie serait le pouvoir des méritants.
Mais tout à fait. Terme récent, comme le montre le fait qu'il a une étymologie qui emprunte à la fois au latin mereo et au grec kratos. Son inventeur est l'anglais Michael Young, un sociologue et un homme politique socialiste qui était membre du Labour dans l'après-deuxième guerre mondiale. Il publie en 58 L'ascension de la méritocratie, qui est un livre sur... qui est un livre de sociologie fiction qui sert à dénoncer, je cite, les effets pervers du système d'éducation anglais.
Alors là, la petite pause tamagocourt.
C'est quoi ? Et il développe l'idée que, loin d'être un idéal, ce modèle poussé à ses limites, engendrerait des situations invivables pour les, je cite, non méritants qui seraient responsables de leur propre sort. Donc on voit que pour son inventeur déjà, le terme de méritocratie était sujet à caution, accusé de légitimer les inégalités et de culpabiliser ceux qui ne réussissent pas scolairement ou professionnellement à la mesure de leurs espérances.
Cela dit, même si le terme a été forgé en 58, on peut se dire que l'idéologie méritocratique est plus ancienne.
Et oui, elle a des racines plus anciennes. Alors je vous demande, est-ce que vous avez envie d'entendre les origines anciennes ?
Allez !
Allez ! D'abord, elle a des conditions historiques d'apparition, comme je vous l'ai dit. Sous l'Ancien Régime, dans une société d'ordre, il n'était pas question de méritocratie parce que la naissance avait un poids beaucoup plus grand que le mérite, au point que l'inégalité pouvait presque apparaître comme un fait de nature. En gros, celui ou celle qui naissait de parents nobles était noble, celui ou celle qui naissait roturier ou roturière le restait dans l'immense majorité des cas. La question du mérite ne se pose alors vraiment à l'échelle d'une société que dans les sociétés où la mobilité sociale peut atteindre une certaine amplitude et où l'égalité, au moins juridique, est suffisamment avancée.
Et voilà, et Sirius fait encore des blagues.
Non, il écoute très attentivement.
Bref, de quand date l'émergence de ce modèle en France ?
Alors, je vais vous faire vite parce que voilà. Alors, il y a deux grands moments, même si on peut... c'est toujours des dates un peu hasardeuses. En gros, 89, la Révolution française. Et là, je pense que Sirius sent son cœur battre, la Révolution. L'affirmation dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que tous les hommes sont nés égaux. Et ensuite, les grandes lois Ferry en 81, donc un saut d'un siècle, avec une école primaire qui devient laïque, gratuite, obligatoire. Car l'école doit être l'instrument de l'égalité des chances. Elle doit être le levier sur lequel le régime peut s'appuyer pour changer la société et la rendre plus juste. D'où la nature politique de l'école républicaine, certes pour le contenu patriotique de ce qu'on apprend, la France, cette grande nation, blabla, mais surtout d'abord pour le fait que tous y ont accès. C'est là le contenu concret à l'époque de la méritocratie, et la Troisième République est fière de son école. Pourtant, selon nos standards, c'est assez peu égalitaire, puisqu'un pour cent d'une classe d'âge de garçons arrive au bac.
Et depuis, le moins qu'on puisse dire, c'est que le mythe de la méritocratie s'est un petit peu écorné.
Oui, l'un des plus célèbres écornages, c'est le livre de Bourdieu et Passeron, Les héritiers, qui date de 64, et qui expliquait, statistique à l'appui, qu'un fils ou une fille de prof avait plus de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un fils ou une fille d'ouvrier. Rien d'absolument révolutionnaire, en réalité, comme Bourdieu le reconnaissait, mais une démonstration rigoureuse. Faisant cela, il passa néanmoins, et passe toujours chez certains, pour un mauvais républicain, qui pourtant adhérait pleinement au principe de l'égalité des chances.
Vas-y. Alors que conclure sur la méritocratie, ainsi renvoyée au statut de mythe, François-René ?
Alors deux choses. D'abord, en tant que projet républicain de renouvellement des élites, elle a une réalité au début de la République, avec la fin de la domination de la noblesse dans la société et une ascension de professions qui ont une visibilité qu'ils n'avaient pas jusque-là, journalistes, hommes de lettres, avocats. Et puis d'autre part, la méritocratie, c'est aussi une notion qui n'est pas évidente à manier. Par contre, l'idéal d'égalité des chances, lui, reste bien vivant et pertinent à condition qu'on décrive la réalité en plus ou moins d'égalité, avec des degrés, sans forcément établir de frontières strictes entre égalité et inégalité des chances.
Et merci beaucoup à 20h33 sur Transistor pour ce décortiquage. Et sous les acclamations de la foule, on accueille Marie qui revient de très très loin et de nombreux amplifiés que tu as séchés. C'est mal.
C'est très mal.
Mais on est ravis de te revoir et c'est parti pour ta revue de presse.